Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bienvenue à tout le monde. Alors, on va s'encourager les uns et les autres. Quelquefois, on a vraiment besoin de courage devant les circonstances de la vie, de l'existence, qui ne sont pas toujours très simples. Et j'aimerais simplement, en introduction, on va prendre un texte de prolongement et qui nous servira finalement de méditation. Mais commençons par celui-ci. C'est un homme qui nous encourage, il s'appelle Abraham. Il a été nommé le père de la foi. Et à la suite d'une expérience extraordinaire. C'était l'histoire d'Isaac qui va véritablement échapper à la mort en raison de l'intervention de Dieu. Vous savez, au moment où Abraham va vouloir obéir à la promesse de Dieu, l'injonction de Dieu, va faire ce geste de mettre son fils sur l'autel pour l'immoler. Et Dieu va lui dire, arrête, ne fais aucun mal à ton enfant, à ton fils. Et il va y avoir un substitut, c'est-à-dire que ce n'est pas son fils qui va être immolé, mais c'est un bélier à la place. C'est véritablement une histoire qui anticipe ce que Jésus a vécu à la croix du calvaire. C'était pas le mont Morija, mais c'était le mont Golgotha, qui était finalement semblablement, parce que d'après les commentateurs, c'était pas loin l'un de l'autre, quoi qu'il en soit, mais avec une distance de temps considérable. Et Abraham dira maintenant, je nomme ce lieu Jéhovah Jireh. Et c'est surtout ce que nous avons en traduction dans notre langue, l'Éternel pourvoira. Vous retenez bien cette parole, parce que ça va être la trame de notre méditation. L'Éternel pourvoira. Alors gardez bien ça en mémoire. On va lire un autre passage qui est différent, mais qui nous ramène sur le même chemin. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, que vous connaissez, que nous avons souvent médité ensemble. Alors, 1 Roi, chapitre 17, je vais en lire qu'une partie. Il est question d'un autre Abraham, il s'appelle Élie, un homme du miracle, du miraculeux. Verset 1er, Élie, originaire de cette ville, on l'appelle le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, retenez bien, là. J'ai ordonné de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je prolonge. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sabrepta qui appartient à Sidon et demeure là. Il y a des petits mots qui semblent rien du tout, mais qui sont finalement la clé de notre délivrance, la clé de ce que Dieu veut nous enseigner ce matin, là. Nous sommes là, d'accord ? Vous en êtes conscients ? Je suis comme le torrent qui s'est asséché, et pourtant que de pluie, que d'eau. Alors, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. J'ai nommé ce message « Les certitudes » et puis j'ai ajouté aussi « Les corbeaux de la Providence ». Ouais, les corbeaux de la Providence. Mais j'ai ajouté finalement une petite réflexion. Tout le monde a entendu cette expression un peu triviale, il faut reconnaître, « ravitaillé par les corbeaux ». Vous savez ce que ça veut dire, hein ? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que on dit communément dans notre langage, mais je pense que, humainement parlant, il y a des choses qui sont improbables, c'est vrai. Hein ? Celui qui est au fin fond d'une montagne ou je ne sais dans quelle situation, il y a beaucoup de choses improbables. Ils sont improbables, ces corbeaux de la Providence, parce que ce sont des fournisseurs vitaux, quelque part, pour Élie, aux besoins nécessaires de la terre, que ce soit la nourriture, que ce soit le manger ou le boire, que ce soit l'affection, que ce soit l'amour, que ce soit certains aspects de la vie morale, que ce soit de la vie spirituelle, oui, fournisseurs, aux besoins de la terre, transcendés par la dimension de la foi. Alors, je fais un petit résumé là. Hein. Ouais. Où véritablement la foi va véritablement changer toute chose. Abraham voulait sacrifier pour obéir à Dieu son fils. Il va y avoir un substitut. Nous voyons que, en ce qui concerne, eh bien là, la misère dans un pays désolé de sécheresse, où se trouve Élie, il va y avoir véritablement un substitut. Enfin, je les ai appelés les fournisseurs, moi. Fournisseurs improbables. Et puis dans le salut du monde, eh bien, il va y avoir aussi un substitut. Ouais, Jésus-Christ s'est substitué à chacun d'entre nous. Il aurait pu détruire le monde, mais il n'en a été rien. Je pourrais dire que ce que nous sommes en train de développer, c'est l'interface des nécessités des hommes, je l'ai dit, tous les besoins existentiels que nous avons. Parce que la parole nous dit aussi, pour surenchérir, elle nous dit tout simplement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous le connaissez ça. Naturellement, vous le connaissez. Alors, nous allons entrer maintenant dans ce que nous pouvons appeler les certitudes de la parole de Dieu, ou les soins divins, pour ceux qui espèrent en lui. Et nous avons cette parole, et peut-être ce matin, vous qui êtes là, certains, probablement, je m'en doute, je suppose, eh bien, il y a des promesses, où cela nous est rappelé dans le livre des Hébreux, quand il est dit ceci, en particulier, chapitre 13, et je fais la lecture du texte, il est dit ceci, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Alors, quand on n'a rien, c'est difficile. Mais il y a un contentement qui est aussi, une autre vision des choses, c'est celle de la foi. On peut être heureux, on peut se contenter, on peut accepter l'inacceptable, parce qu'il y a quelqu'un qui va pourvoir à nos besoins. Alors, il est dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, comme il l'a dit à Abraham, comme il le dit également à Élie, comme il l'a dit en appelant Jésus, et par là même, nous appelons nous-mêmes, quelque part. Car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je. C'est quelque chose de plus personnel encore. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai rien, ni le tsunami, ni l'incendie, ni la faim, la soif et tout ce que nous pouvons multiplier de choses qui existent dans le monde, toutes les catastrophes que nous sommes à même de rencontrer dans notre vie, dans notre existence. Je voudrais faire un rappel, c'est que l'école des Égyptiens a été pour les Hébreux, on connaît cette période, un apprentissage à dépendre de leur maître tyrannique. Eh oui, ils ont été 430 ans dans la servitude la plus rigoureuse, la plus terrible, véritablement le despotisme. Mais là, ils ont dû apprendre à obéir, et non pas à quelqu'un de bien, mais quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui était véritablement, eh bien là, leur ennemi tous les jours, jour et nuit, un peuple entier. Et donc, ils ont été en apprentissage, et nous devons apprendre aussi à obéir aux hommes. À obéir aux hommes, que cela nous pèse ou pas. Alors, ce n'est pas de la dictature, hein, je ne parle pas hein, de cela. Mais néanmoins, ça c'est notre temps où nous avons été peut-être dans le monde, en Égypte aussi. Et nous avons appris à obéir sans broncher. Alors aujourd'hui, c'est volcanique, hein, dans tous les sens, hein, quoi qu'il en soit. Bon, je passe là-dessus. Et cet homme tyrannique, les hommes tyranniques, c'était les pharaons. Et pendant 430 ans, c'est quelque chose de difficile. Hein. Ils ont pleuré, ils ont, vécu des choses épouvantables. Pour passer à une autre expérience, qui est la nôtre. Une autre expérience, dépendre de Dieu seul. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, dans la deuxième lecture, dans l'hébreu, il est dit, mais que peut me faire un homme? Mais c'est vrai. Il peut faire beaucoup de mal. Mais quand Dieu nous donne, nous dit, tu vivras, eh bien tu vivras. Maintenant, s'il veut que ce soit autrement, eh bien voilà. Mais nous savons, nous allons. Ce n'est pas le vide. Ce n'est pas finalement eh bien, l'anéantissement, parce que ça n'existe pas dans la Bible, l'anéantissement. Hein, c'est la vie éternelle, soit d'un côté ou soit d'un autre. Dépendre de Dieu seul. Et moi, j'aime bien cette petite phrase que nous avons 5 fois dans la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, « Et mon juste vivra par la foi. » Et on touche des sommets avec Élie, on touche des sommets avec Abraham. Alors, que dire de Jésus, hein? Que dire de Jésus? Parce que si nous apprenons, si nous avons appris, et si nous ne voulons pas nous en défaire, dépendre de nos semblables, émousse notre volonté. Il y a l'aigreur, il y a l'amertume, il y a les injustices, il y a toutes sortes de choses, et quelquefois on dit, on laisse couler, on laisse aller. Et notre esprit d'initiative. Il a fallu que Moïse, plus tard, secoue le peuple d'Israël, secoue Pharaon, pour que véritablement ils sortent de leur torpeur, les uns comme les autres. Pharaon pour maintenir, d'une main de fer, et puis les Hébreux de sortir un petit peu de leur habitude, qui finissait par s'accoutumer. Et on va le voir d'ici quelques instants. La grande leçon de la foi en Dieu, c'est qu'on ne le voit pas. Eh oui. Alors si vous voulez, on a Jésus. Mais Jésus, vous ne l'avez pas vu. Vous avez seulement, comme pour Dieu, cru à sa parole. Et ça a été véritablement un miracle. Il nous a rendus capables de croire à ce que nous ne voyons pas. Et je pense que je le dis et je le répète encore assez souvent, le Seigneur n'est pas venu pour nous dire « Si tu vois, tu croiras, mais si tu crois, tu verras. » Ça, c'est les choses, c'est l'interface, on peut dire, hein, comme on le dit eh bien, en informatique. Un Dieu qu'on ne voit pas, eh bien, ça devrait limiter notre croissance et notre maturité spirituelle, parce que nous errons dans un désert vide et nous cherchons. Et le désert, c'est vraiment inhospitalier. C'est vraiment quelque chose de difficile. Où tous les besoins vitaux, on en est privé. Hein? Le froid la nuit, eh oui, c'est curieux. La chaleur épouvantable le jour, pas d'eau, du sable, du vent. Alors, on en est là. Hein? Et je crois que nous avons souvent erré dans un désert vide, et j'espère que mes frères qui êtes en effet peut-être à vivre ces choses plus ou moins naturellement, eh bien, moi je voudrais quand même vous rassurer, parce que tout manque de ressources doit susciter un appétit. Ça me manque, je cherche. Ça me manque, j'aspire. Cela me manque, je veux !» Avec toutes les formalités que nous devons à Dieu pour le respecter dans ce qu'on lui demande. Et on n'est pas là pour le commander. Hein. On est là pour véritablement et bien dépendre de lui. Et montrer une attitude qui ne soit pas la révolte, qui ne soit pas finalement et bien la contestation comme on le voit dans notre monde, dans la généralité. Mais non. Et ça doit nous stimuler, susciter un appétit pour la manne mystérieuse. Eh oui. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert? Rien du tout. Rien à manger. La manne mystérieuse, tout simplement, et de pouvoir, eh bien là, parce que nous sommes profondément altérés de quelque chose d'indispensable, une eau pure, sortie d'un même rocher miraculeux. Moïse. Ah, ils ont dû certainement faire des sacrées expériences. Mais ils ont eu soif. Hein. Ils ont eu faim. Ils ont eu tout ça. En comparaison d'un souvenir qui était pourtant quelque chose de terrible, cette déportation pendant 430 ans en Égypte, où là, ils avaient des légumes, ils avaient de la viande, ils étaient esclaves, mais néanmoins, ils finissaient par s'en contenter. Tomber dans le contentement et ne rien ne savoir de plus, ne rien vouloir de plus. Alors, je crois qu'il y a des situations qui sont permises par Dieu pour que nous ayons envie. Que nous retrouvions l'envie, que nous retrouvions le besoin de Dieu, que nous nous contentions point de notre quotidien médiocre et de dire, ben voilà, ça ira jusqu'au bout et puis bon, on verra rien d'autre. Non. Nous, les chrétiens, nous voulons quelque chose où véritablement il y a la marque de la providence de Dieu dans notre vie. Le voir, le vivre, le sentir, le réaliser, ça c'est important. Alors, c'est une autre route, en parallèle à la première, une autre route qui s'ouvre, mais celle-là, elle est surnaturelle. On l'a vu dans les lectures que nous avons faites. Ouais, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas, mais toi qui me parles du haut du ciel, je te vois pas. C'est ça le problème. Mais par contre, Dieu me répond, mais je t'ai parlé, mais je t'ai dit, je te offre finalement, eh bien, le livre le plus merveilleux qui soit, et tu peux me suivre finalement, par cette écriture qui vient de Dieu, donc elle est sainte. Et là, à ce moment-là, même si tu ne me vois pas, tu connais le témoignage que je te rends à travers les grands faits historiques, où là tu peux t'identifier, mais il faut croire. Il faut croire. Et ça ira jusqu'à la fin de notre vie, hein, ça. On verra certainement des belles choses entre-temps. Mais néanmoins, eh bien, quand on a fini une belle expérience, il y a encore la routine qui recommence, jusque il y a encore des besoins, et puis là, nous nous tournions devant Dieu, nous pleurions devant Dieu. Quelquefois, c'est ça. Alors, cette simulation parallèle s'exprime par deux choses venant de Dieu. C'est la première, c'est une promesse, c'est une parole. « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Frères et sœurs, ou amis qui êtes là, ou peut-être quelqu'un qui vient pour la première fois, eh bien, voilà la parole que je voudrais vous laisser, que Dieu, à travers ma bouche, mais que Dieu voudrait vous laisser ce matin, Dieu ne va pas vous abandonner. Ne baissez pas les bras. Il ne va pas vous délaisser. Savez-vous que vous êtes son fils et sa fille, que vous êtes des enfants de Dieu, et quel est le Père? Et Jésus nous le dit dans une petite parabole que nous trouvons à un moment ou un autre des évangiles. Il dit, mais une chose qui est certaine, mais quel serait le Père qui refuserait un poisson, qui refuserait finalement du pain, qui refuserait même le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit, parce que il est le Père et nous sommes ses enfants. C'est un petit peu ce que nous avons fait, ce que nous faisons encore aujourd'hui, auprès de nos enfants et de nos petits-enfants. Hein. Eh oui. Ça, c'est quelque chose. Et puis alors, derrière cette promesse, il y a la confiance, c'est-à-dire c'est le retour, dans un environnement vide. Quelquefois, nous repartons. Oui, oui. Vous ne croyez pas que Élie avait fait des choses extraordinaires, le mont Carmel, et puis ceci, et puis cela, et puis il avait vu des choses extraordinaires. Et puis à un moment donné dans sa vie, il y a comme une déchirure, comme une fracture. Et là, il va finalement, eh bien, reconnaître le vide quand il est en pleine dépression, là. appelons-la nerveux si on veut. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il va recommencer. Et Dieu tout à nouveau, parce que Élie est son serviteur, parce qu'il est son enfant, eh bien il va lui redonner une autre mission. Vous savez que nous avançons, j'allais dire par saccade, non, mais nous avançons par étapes. Étapes où Dieu nous conduit, parce que lui, il sait déjà où il veut nous amener. Et parfois, nous passons des étapes où nous prenons des chemins de traverse, des voies sans issue, et puis ben, le Seigneur nous dit « Mais tu m'échappes encore !» Parce que tu penses que c'est comme ça, mais moi j'avais quelque chose. Mais bien sûr, il y a une part de souffrance à accepter. À un moment ou à un autre, cette semaine j'ai préparé, c'est pas celui-ci, hein, mais cette semaine j'ai préparé un message où il est question, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? En échappant. Alors, les évasions, les échappatoires, il y en a un dans notre vie. Alors que Dieu a un plan bien précis. Maintenant, peut-être qu'il va falloir des mois, qu'il va falloir des années, qu'il va falloir peut-être des décennies pour qu'il nous mette vraiment sur les rails comme un train et que là, véritablement, nous atteignions le but. Quelquefois, ça se fait à la fin de la vie. Mais on pourrait le faire peut-être avant. Pour tous ceux qui ont une ambition de servir Dieu et de le glorifier. Dénué de toute possibilité visible de secours, eh bien, le Seigneur nous dit, avance quand même. Avance. Tu ne marches pas devant moi, hein. C'est ce qu'on disait il y a un instant, mais tu marches derrière moi. C'est comme l'aveugle Bartimée qui va recouvrir la vue. Il nous est dit qu'il est sorti de son fossé et il a suivi Jésus dans le chemin. Jésus était devant lui et il était aveugle, il ne voyait pas, comme nous en parlons à l'instant où nous sommes en train de méditer. Alors le plan de Dieu dans tout ça, c'est passer d'une économie de survie qui était celle du commun des mortels, vous savez, la survie à une économie d'abondance. Dieu veut nous enrichir. Alors bien sûr, c'est peut-être pas en disant « Seigneur, tu bénis parce que j'ai joué au loto. Alors tu sais, j'aimerais bien que tu me donnes de gagner au moins une fois. Après, je te dérangerai plus, j'en aurai assez. » Non, cette abondance n'a rien à voir avec finalement les concepts que le monde se donne pour dire « Voilà, c'est ceci, c'est cela. » Pourtant, en Égypte, ils étaient riches, hein, les Hébreux. Hein, mais ils ne savaient pas. Ils avaient des os. Alors, aïe, hein, vous comprenez, ça fait mal. Hein, aïe, naturellement. Des oignons. Ils avaient des autres légumes, des fruits pour s'en nourrir. Et ils avaient des cailles. Vous vous rendez compte, le menu était complet. Il y avait des légumes et de la viande. C'est formidable. Jusqu'au jour, ils ont commencé à se plaindre en disant « On en a par-dessus la tête de cette épouvantable nourriture. » Et attention de ne pas tomber dans le piège. Alors, moi, je ne sais pas si vous mangez des cailles tous les jours. Mais ça ne me regarde pas, hein, de toute façon. Ça pourrait donner des idées à ma femme. Alors, donc, moi, je ne vais pas manger de cailles tous les jours. Mais une chose qui est certaine, c'est que ils en ont eu par-dessus la tête à un moment donné. Vous savez, il faut faire attention de ne pas en avoir par-dessus la tête quand Dieu nous a déjà bénis et qu'il veut encore nous bénir et qu'il va nous conduire dans la pleine abondance, dans la plénitude de l'abondance. Alors, il nous faudra peut-être toute notre vie pour ça, hein, mais pas finalement maugré. Il y a les chrétiens qui quittent, hein, le Seigneur. Je ne dis pas l'Église, je dis le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, bon, ça va, c'est bon, c'est bien. On a fait des expériences, on sait parler de Dieu, on sait ceci et cela, mais il n'y a plus la substance spirituelle au fond de notre cœur. Parce qu'on a été négligent, parce qu'on a été méprisant. C'est sortir et sans regret de notre zone de confort. Ouais, vous savez ce que c'est qu'une zone de confort ? Tranquille. On est vraiment tranquille avec nous-mêmes, si on ne l'est peut-être pas avec les autres, mais toujours est-il, zone de confort. Où Dieu va nous conduire à une table supérieure, et la table supérieure, elle est là. Le renouvellement, à chaque fois que l'on prend le pain et le vin, qui est finalement la commémoration de la mort de Jésus pour moi, pour vous, alors à ce moment-là, on reprend quelque chose de particulier. Parce que la coupe, elle est bien écrite, hein, dans la parole. Hein. La coupe, c'est une coupe de bénédiction. C'est pas une coupe de malédiction. Il y en a qui viennent au repas de Sainte-Seine en disant « qu'est-ce qui va me tomber encore sur la tête ?» Alors je prends pas la Sainte-Seine. Eh ben vous avez tort de pas prendre la Sainte-Seine. Parce que si, même si vous avez péché, que vous demandez pardon à Dieu, et que vous pensez que Jésus vous a pardonné complètement et totalement, et que vous vous repentez sincèrement, mais vous allez repartir. Parce que lui, il y en a un qui veut vous arrêter. C'est le diable. En vous faisant croire, en vous culpabilisant à mort. Non ? Oui, oui, il y a naturellement une table supérieure où, comme la parole le dit, où coule le lait et le miel. Et pour nous, ce n'est pas Canaan. Hein. C'est déjà ici-bas, mais ça sera pour, finalement, l'intemporel, au ciel. Alors, on ne peut pas trop en parler, parce que, bon, pour l'instant... Je reviens à mon prophète. Dieu déclare, et on va le lire, Élie de Galade, il dira ceci... L'Éternel est vivant et le Dieu d'Israël, je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie à ma parole. On va un peu plus loin. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir dans le haut torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alors voilà. Hein, ça paraît c'est lapidaire, hein, c'est très simple, hein, mais il y a toute une histoire derrière ça. Ordonne, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est pas ailleurs, c'est pas à droite ou à gauche, c'est vraiment précis. Et Dieu va pas nous faire des commentaires, hein, des explications, hein, de A à Z. Non, il nous met en face d'une destination et faut y aller, faut y rester. Ça, c'était la question d'y rester. Comme quand Abraham est parti de Charan, et puis il lui a dit, eh bien voilà, tu vas... La destination, c'était les chaînes de Mamré. Mais toujours est-il que c'était A plus B, et c'est tous les jours, finalement, qu'on marche par la foi, sans savoir où nous allons. Hein. Alors, il y avait naturellement, eh bien, passé un ruisseau. Quand il arrive, il était tout plein, ce ruisseau. Et puis maintenant, il est à sec. Il pourrait dire, mais Seigneur, tu te rends compte un peu? Moi, j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Et quand j'ai vu cette eau, je dis, mais moi, je ne veux pas manquer de quoi que ce soit. Et puis, quelques temps après, assez rapidement, il s'aperçoit que le torrent est à sec. C'est fini. Alors, c'est le désespoir, là, à ce moment-là. Et on savait qu'il avait été prévenu, hein, Élie, parce qu'il avait dit aussi, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, la parole d'Élie devient la parole de Dieu. Et il le savait. Mais il va tenir le coup, hein, Élie, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est le verset 7 qui nous le dit, de toute façon. Il est dit simplement ceci, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Ce qui nous conduit, ce qui nous ouvre la porte de, finalement, la suite miraculeuse, inattendue, et c'est même paradoxal, hein, cette histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Élie va se dire, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus rien. Les corbeaux se sont envolés. Corbeaux de la providence divine. Eh, ils ne sont plus là. Ben oui, parce que peut-être qu'en amenant de la nourriture à Élie, ben, il en profitait pour boire un peu d'eau. Mais comme il n'y a plus d'eau, il n'y en avait plus pour Élie non plus, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va apparaître dans la suite, je ne l'ai pas lu, ou d'une manière fractionnée, il y a une pauvre veuve dans un village païen, ouais, une femme en détresse, près d'un torrent aussi, d'une rivière, qui est elle-même à sec, c'était peut-être le même, hein, je ne sais pas, hein. Et nous voyons que là aussi, elle va devoir quitter le terrain de la survie. La pauvre femme, elle est veuve, me semble-t-il. Elle a un fils, et que faire? Et c'est toujours le même refrain. Il faut faire face aux réalités des choses, même si on ne comprend pas. C'est toi, Seigneur, qui a parlé, c'est toi qui m'as dit. Et là, nous voyons qu'il ne va pas y en avoir pour un, il va y en avoir pour une famille entière, enfin, la maman et puis le fils. Et il y en aura également pendant un temps, des temps, plusieurs temps. La bénédiction, elle est là, mes frères et sœurs. Moi, je suis béni. Si je suis béni, si vous êtes béni, c'est pas seulement pour vous seul. Vous avez fait l'expérience. Vous allez faire encore des expériences. Mais ce sera pas à un moment donné, Dieu va vous dire, déplace-toi. Ce n'est plus là, mais c'est là. Et là, vous allez apporter une bénédiction à tous ceux qui sont dans la misère et dans le malheur, dans la détresse, dans l'angoisse. À deux pas de la mort, à deux doigts de la mort. Les pensées de Dieu. Vous savez que Jésus, et là je vais extrapoler, je vais aller beaucoup plus loin, a donné sa vie pour sauver le monde entier. Il n'avait pas besoin d'être sauvé, lui. 3 fois saint. Mais c'est ainsi que l'évangile s'ouvre. Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Des hommes ici, là, etc. Partout. Partout. Alors, nous avons naturellement cette histoire de cette femme veuve en détresse. Et elle se retrouve dans la même situation qu'Élie. Élie va dire, ben, pourquoi tu m'envoies à Sarepta? Parce que si c'est pour avoir la même chose qu'à Kérit, ça ne sert à rien. Non, il n'a certainement pas maugré hein, de ce côté-là. Hein. Mais il y avait les délices de la profusion qui les attendaient. Et nous voyons qu'à ce moment-là, un petit peu plus loin, que je retrouve au verset 14, il est dit ceci, parce que les choses vont fonctionner par la foi. « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque la famine est au plus grand, au plus profond, la farine qui était dans le pot ne manquera point, il reçoit la promesse encore, et puis la femme aussi, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle a là, elle a obéi, elle. Élie avait obéi à Dieu, elle va obéir à Élie. Elle le reconnaît certainement comme un prophète. Elle a là et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, donc il n'y a pas qu'un fils, aussi bien qu'Élie, les deux, tous. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cette parole, quand il dit « sinon à ma parole », c'est Élie qui le dit, de la part de Dieu. Et les choses se réalisent. Et les choses, finalement, eh bien, se font. Je te nourrirai là. On a fait des expériences dans notre vie pastorale où il a fallu quitter des situations. D'abord professionnelles. Il a fallu quitter des églises où nous étions affectés. Il a fallu quitter certaines choses. Et c'est pas facile parce que c'est un enjeu financier, c'est un enjeu familial, c'est un enjeu de réadaptation qui n'est pas forcément très simple. C'est un enjeu où nous quittons une situation, quelquefois, je ne veux pas dire, ça n'a pas été notre cas, mais pour trouver apparemment pire, alors que finalement il y avait le meilleur derrière. Et moi je pense à notre venue dans la région. Pour nous, alors peut-être que vous n'êtes pas content de nous. Enfin, de toute façon, maintenant, j'ai pris ma retraite, alors vous pouvez parler. Dans tous les cas, on vous remercie pour toute votre gentillesse et toute votre affection depuis 20 ans. Hein. C'est pas quelque chose de très court. Hein. Alors, je te nourrirai là. Et il y a cette tentation de la fuite ou ne pas avancer. De dire, ben moi, je reste là. J'étais bien à Kérit. Alors, je vois pas pourquoi je vais aller à Sarepta. Tentation de la fuite, de l'abandon suscité par la peur, de ne jamais s'en sortir. Ça nous semble finalement un cercle sans fin. Les plans de Dieu, quelquefois, on se dit, mais oui, mais il y a ceci, il y a cela. Vous savez, chacun d'entre vous, vous avez certainement fait des expériences où vous avez été vainqueur. Et puis après, il y a eu encore d'autres situations, d'autres catastrophes, etc. Et on se dit, mais ça n'en finit pas. Mais jusqu'au bout de notre vie, ça ne va pas en finir. Mais par contre, il y a des pépites au milieu de tout ça. Je dis bien des pépites. Vous savez ce que c'est qu'une pépite? Allez, prenez une pioche et allez faire un petit trou là. Vous allez peut-être en trouver, hein, la perle de grand prix. Hein. Ouais. Vous savez que nous avons des correspondants dans le message de l'Évangile. Jésus a nourri une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est pas mal, hein? Ouais. À faire blêmir... finalement, toutes les caisses de secours alimentaires, là, aujourd'hui. Hein. La manne et les cailles dans le désert. Joseph avec les vaches grasses. Mais il y a eu aussi les vaches maigres après. Hein. Oui, c'est toujours les mêmes choses. Hein. C'est une éducation surnaturelle est logique de la foi. La foi, c'est pas logique, mais moi je dis qu'elle est logique quand même, dans une certaine sorte, quand on la regarde dans sa lignée. Ouais. L'effet miraculeux divin transforme les déserts naturels en fertilité et en abondance. Ouais. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le 84 ou 86, mais bon, peu importe. Il est dit, « Il a fait passer sur nous des hommes. Il nous a piétinés. Il nous a humiliés. » Je parle de Dieu, hein, pour voilà ceux qui sont quelquefois dans l'épreuve. « Mais il nous en a retirés pour nous donner l'abondance. » Eh bien, mes frères et sœurs, moi, je ne sais pas quel est votre état d'esprit. Là où vous êtes, aujourd'hui, au moment où nous parlons, mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu vous prépare quelque chose de bien. Oui, quelque chose de bien. Au désert, Jésus a vaincu. Il ne s'est pas enfui. Non. Et nous voyons que ces tentations, c'était des épreuves qui se soldent tous par des victoires. Les pierres, et puis le haut du temple, et puis également, il y avait naturellement, si tu m'adores et te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toutes ces richesses et tout ça. Jésus n'a pas fléchi. Victoire extraordinaire sur l'ordinaire. Et il nous est même dit, en conclusion dans ce texte que nous trouvons là dans les débuts des premiers évangiles, il nous est dit, et les anges le servirent. Eh oui, on ne s'en aperçoit pas de ça aussi. Mais quelquefois nous avons fait des expériences où nous disons, mais après coup, on se dit, mais on n'était pas tout seul quand même. Hein. On a été quelquefois épargné d'un accident qui pouvait être mortel. On a pu passer par des opérations où le médecin nous a dit, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Et puis tant d'autres choses. Quelquefois, à la recherche d'un travail en disant, mais moi, je ne retrouvais jamais de travail parce que ce n'est pas possible. Et là, des portes se sont ouvertes et derrière les portes, il y avait des anges. On ne prie pas les anges. Hein. Dieu déploie sa providence infinie sur et avec ses plus insignifiantes créatures, les oiseaux du ciel et les lys des champs. Pourquoi ne prendrait-il pas soin de vous? On n'est pas des drôles d'oiseaux quand même. Nous sommes des bouquets de lys, finalement, aux yeux de Dieu. Et il prend soin de nous. Alors les corbeaux, le torrent à sec, la femme, la veuve de Sarepta affamée, contentons-nous, mes frères et sœurs, de croire, de savoir attendre l'exaucement providentiel du ciel, et ce sera le secret de notre contentement. Ah Seigneur, je suis content. Je suis content parce que je n'ai peut-être pas la fortune des uns, des autres, les situations, etc. Mais je suis content de ce que j'ai. Parce qu'autrement, nous sommes dans un monde aujourd'hui, dis donc, hein, ça grince de tous les côtés, ça grogne. Ouais, c'est terrible, hein. C'est véritablement un mouvement qui va broyer le monde, tout cela. Oui, le contentement et non des plaintes de l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui nous fait critiquer. C'est l'incrédulité qui nous fait finalement, eh bien là, même parler mal à Dieu. Ouais. Dans Philippiens, il est bien dit cette parole. Je tiens quand même à vous la lire, parce que mais vous la connaissez, mais c'est une belle parole. Chapitre 4, il est dit ceci. Ce n'est pas en vue, c'est Paul qui dit, hein. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, parce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, etc., etc. Et au verset 18, il est dit ceci. J'ai tout reçu, même s'il n'avait pas grand-chose, le pauvre Paul, hein. Ouais. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Il est dit aussi également, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Alors que le Seigneur, véritablement, eh bien, puisse être considéré comme celui qui est tout, qui donne tout, et qui va véritablement nous donner le meilleur. Le mot définition de providence, qu'est-ce que ça veut dire? Providence, providere en latin, c'est soutenir. Retenez bien les verbes, hein. Ils ont un sens, parce que c'est le verbe de l'action. Hein. Le verbe est un mot qui exprime l'action. Voilà. Donc, c'est pourvoir, c'est prévoir. les actions sur le monde. C'est la bienveillance de Dieu. Bienveillance, veiller au bien, si vous voulez le décomposer. Du Dieu créateur afin d'atteindre la fin heureuse qu'il destine aux hommes et qu'il nous a destinés par celui qui est l'ordinateur, ou l'ordonnateur plutôt, universel de tout ordre. Oui, Dieu est un Dieu d'ordre. Et ça nous semble désordre quelquefois, les circonstances, les événements, les situations, en disant « mais le jeu de cartes est mélangé, on ne comprend rien ». Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire. Eh oui, il y a combien de fois on nous a objecté, bien voilà, mais moi si je vois, je croirai. Si véritablement je comprends, je croirai. Mais le Seigneur va nous dire, mais tu es pas sur la bonne route. Tu es en train de marcher sur un terrain qui va te confondre encore davantage. Oui, Dieu est l'ordonnateur universel de tout ordre. Alors, je finis. Dieu dit à Élie, pars d'ici, quitte ta zone de confort, d'habitude et de sécurité. Peut-être il y a un effort à faire de ce côté-là. On prend nos considérations, tout au moins. Cache-toi. Pas de publicité véhémente et d'excitation démonstrative. Il nous faut de la discrétion. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur va faire, et c'est. Attendez d'abord qu'il l'ait dit et qu'il l'ait fait. Au lieu de vous vanter de choses qui sont, qui, quelque part, eh bien, qui n'ont pas, qui sont de la vanité, tout simplement. Tu boiras l'eau à la place que je t'assigne, et indiqué au bon endroit. C'est finalement le lieu là, dans cet endroit. Alors il est dit qu'il partit. Obéissance, sans question de doute et d'hésitation. Il alla s'établir, séjour prolongé, un temps de repos. Parce que quand il est arrivé finalement à Kérit, Dieu voulait le laisser reposer certainement de tous ces événements qu'il avait connus auparavant. Heureux, naturellement. Et puis peut-être aussi à Sarepta, il espérait peut-être qu'il trouve mieux qu'à Kérit. Mais non. Mais finalement, eh bien, les choses se sont faites quand même. Il nous est dit qu'il a été deux fois en face du Jourdain. Oui. Quand il était à Kérit et quand il était à Sarepta, probablement. Qui est l'image emblématique d'une eau qui coule largement et suffisamment. C'est tout un pays qui est arrosé. Ou si ce sont tout simplement des conflures qui arrosent le pays. Pas forcément le Jourdain, proprement dit. Kérit. C'est un filet d'eau insignifiant qui ne mérite pas qu'on s'y arrête plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements, mes frères et sœurs. Oui. Ah oui, ça ne coule pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose, etc. C'est comme dans le commerce. Hein. Pour faire un commerce, il faut d'abord commencer souvent petit. Hein. Il faut se faire une clientèle, etc., etc. Mais pas penser que tout de suite, vous allez devenir patron d'une grande industrie, des choses comme ça. Oui, oui. Des faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Et je pense que c'est ce qu'il a appris aussi, notre ami. Et puis le pain et la viande, la farine de Sarepta, sans défaut de pénurie, j'ai cité finalement eh bien, le texte, parce que c'est une bénédiction partagée. La conclusion, ravitaillée par les corbeaux. Moi, je ne sais pas où vous habitez. Enfin, ici, c'est assez rare, on a quand même des supermarchés et puis des magasins. Hein. Oui, ça va, c'est bon. Mais il y a des gens qui sont quelquefois, même dans notre pays de France, si vous allez dans le Larzac, voilà, c'est. Puis il y en a d'autres, mais bon, je pense qu'on n'a pas le problème chez nous. Ravitaillés par les corbeaux. Et nous avons fait ce matin simplement, j'ai proposé ça à votre réflexion, tout simplement une autre version, une étude d'une autre version sur les réalités physiques, matérielles de la vie et qu'il peut y avoir encore un développement, un autre regard, une autre vue qui n'est pas celle de la terre, mais qui est celle du ciel, ce que Dieu voit sur la terre et ce qu'il veut faire avec nous, parce que nous sommes encore sur la terre. Que Dieu nous bénisse ce matin. Les corbeaux de la providence. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Merci Seigneur parce que nous voulons croire, Père éternel, que tu as préparé toutes choses pour notre bien, pour véritablement, Seigneur, que nous puissions vivre une vie normale, mais pas une vie sans toi, pas une vie livrée à nos désirs qui, quelque part, sont tellement charnels et vaniteux que, Seigneur, ça ne nous amènera jamais nulle part. Mais, Seigneur, nous voulons véritablement, et moi je veux te demander de visiter mes frères et mes sœurs qui traversent des moments difficiles, soit dans la santé, soit parce que véritablement ils sont malades, ils sont en souffrance. Ils sont véritablement, Père éternel, tourmentés moralement, psychologiquement, et quelquefois vraiment dans un grand questionnement spirituel, où ils ne comprennent plus rien à rien, parce que tout leur semble en désordre. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es venu remettre de l'ordre dans le désordre de nos âmes, de nos pensées, de nos consciences, de finalement peut-être même une vie quotidienne. Parce que c'est le désordre, tout simplement, c'est la nature, tout simplement. C'est peut-être en effet nos péchés, mais en effet tu viens quand même pour nous guérir. Alors tu bénis en effet, Seigneur, ta parole, tu bénis mes frères et mes sœurs et tu leur donnes avec une si grande simplicité de saisir que c'est là, c'est auprès de Jésus, c'est dans la parole de Jésus, c'est dans les promesses de Jésus que véritablement tu vas nous donner, nous faire passer de la médiocrité à l'abondance. Et nous pourrons aussi être en bénédiction aux autres. Merci Seigneur. Amen.